Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Ilse de Sicard, à la réalisation Elisabeth Miro, prise de son Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre déambulation parmi les portraits des économistes qui ont marqué l'histoire se poursuit. Après avoir traversé le XVIIe siècle en compagnie de Jean-Baptiste Colbert et découvert les Lumières autrement avec Adam Smith, nous allons pénétrer dans l'Angleterre victorienne sur les traces de John Stuart Mill. La vie et l'œuvre de ce grand penseur du libéralisme se confondent et nous plongent dans les bouleversements de la révolution industrielle britannique. Dans le sillage de David Ricardo et de Jeremy Bentham, John Stuart Mill enrichit la pensée économique grâce à ses théories sur la liberté et l'individu. C'est cette réflexion, largement influencée par celle de sa femme, Harriet Taylor, que nous allons explorer aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons suivre les pas de John Stuart Mill tout au long du 19e siècle en compagnie de Nathalie Sigaud, professeure d'économie à l'université Paris-1-Sorbonne, membre du laboratoire Phare, en compagnie également de Françoise Orasi en duplex de Lyon, professeure des universités en civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2 au laboratoire Triangle et auteur de L'individu libre, le libéralisme anglo-saxon de John Stuart Mill à nos jours, paru chez Classique Garnier. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
C'est un héritier, c'est l'héritier de Bentham au moins, qui est le père putatif de l'utilitarisme. Et le principe, c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc c'est une théorie du bonheur. On met en avant la notion de bonheur. Et cette notion de bonheur est comprise comme une somme de plaisirs, étant défalquée des déplaisirs. Et le point qui me semble essentiel, c'est la question du calcul. C'est-à-dire, en très gros, ce qui est mis en avant par ces utilitaristes, on a parlé d'utilité bien avant, bien sûr les années de la fin du XVIIIe siècle et début XIXe, puisqu'on en parle depuis l'Antiquité, chez Platon, avant, après, chez Épicure. Mais le point qui est essentiel, c'est la question du calcul. Il s'agit donc de calculer de quel côté, dans une action donnée, quand il s'agit d'établir une loi, quand il s'agit de chercher un intérêt dans une affaire privée, il s'agit donc constamment de calculer l'intérêt.
Bonjour Nathalie Sigaud et Françoise Orasi.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre le philosophe Jean-Pierre Clairaut nous parler de l'utilitarisme, cette théorie du bonheur développée par Jeremy Bentham et reprise par John Stuart Mill. Le bonheur est conçu comme une somme de plaisir qui nécessite un calcul des intérêts, Nathalie Sigaud.
Oui, alors en réalité, l'utilitarisme a deux branches. Hein. C'est pas seulement le plus grand bonheur du plus grand nombre. C'est à la fois un principe individuel qui explique que les actions individuelles sont guidées par la recherche du plaisir, effectivement, vu comme chez Bentham au moins comme la différence entre les plaisirs et les peines. Donc il y a un calcul. Et en même temps, le deuxième sous-principe, disons, c'est la recherche du plus grand bonheur. C'est-à-dire, c'est un principe plus normatif qui se situe au niveau de la société. Pas au niveau de l'individu, mais au niveau de la société. Et effectivement, toutes les lois, toutes les institutions doivent être évaluées à l'aune de ce qu'elles permettent d'arriver en termes de plus grand plaisir ou de plus grand bonheur pour les individus. Mais j'aimerais quand même signaler qu'il y a une vraie différence entre Bentham et Mill, hein, qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, qui est que, contrairement à Bentham, Mill met en avant une différence dans les qualités des plaisirs.
Alors on va y revenir, mais alors pour bien comprendre la pensée de Mill, il faut en repasser notamment par le récit de sa vie. Et peut-être faut-il commencer par dire, Françoise Orasi, que John Stuart Mill naît le 20 mai 1806 à Londres et son père va jouer un rôle déterminant dans son éducation intellectuelle.
Oui, alors c'est véritablement une histoire qui a confondu beaucoup de commentateurs, puisque son père, qui lui-même avait reçu une éducation quelque peu particulière, étant donné sa basse extraction, si j'ose m'exprimer ainsi, tient absolument à ce que son fils soit un génie. Il s'agit d'ailleurs pour lui plutôt de démontrer la validité des théories pédagogiques dans laquelle lui-même et Bentham versent, en produisant sous l'effet, je dirais, minutieux de cette théorie, la preuve, grâce à son fils, que quand on est éduqué de la manière qu'il croit être la bonne, on peut devenir bien bien plus intelligent que lorsqu'on subit l'éducation telle qu'elle est conçue à l'époque.
Et concrètement, cela veut dire cours d'apprentissage du grec à 3 ans, son père lui fait également faire une étude complète de l'économie politique à 13 ans.
Ah oui, c'est véritablement un enfant, mais précoce, plus qu'on ne peut le concevoir. Mais alors évidemment, l'encre a beaucoup coulé justement aussi sur le fait que tout le temps qu'il consacre à l'étude, avec des journées marathon, hein, on se lève très très tôt et on travaille, on fait ses devoirs, et puis on aide les petits frères et les petites sœurs à faire les leurs, et puis après c'est les répétitions des leçons avec papa. Si on commet la moindre erreur, on ne mange pas, enfin, on lui accorde une demi-heure de promenade, et puis retour à l'étude jusqu'à ce que la nuit tombe.
Et pourtant, dans son autobiographie, Mill évoquera en ces termes cette éducation. Il dit, je cite, « Si j'ai pu accomplir quelque chose, je le dois entre autres circonstances heureuses à ce que l'éducation par laquelle mon père m'a formé, m'a donné, je peux bien le dire sur mes contemporains, l'avantage d'une avance d'un quart de siècle. » Donc il éprouve une grande reconnaissance pour l'éducation que lui a fournie son père, même si la contrepartie, c'est peut-être que c'est un petit garçon assez seul.
Je crois que chez Mill, il faut toujours faire très très attention aux mots qui sont employés. Il reconnaît qu'il est l'homme intelligent qu'il a été grâce à l'éducation de son père. Ce qui ne revient pas à admettre qu'il est heureux, ce qui ne revient pas non plus à admettre qu'il est épanoui.
Son père est employé à la Compagnie des Indes et malgré son attachement aux théories de Malthus, il aura 9 enfants, Nathalie Sigaud. Alors là, il y a une contradiction qu'on peine à comprendre.
Voilà, et d'ailleurs, Mill, dans son autobiographie, en parle. Il donne un... Il explique que son père aura de nombreux enfants alors même qu'il n'avait pas les moyens de les éduquer. Hein, puisque le malthusianisme, tel que Mill le comprend, c'est effectivement un trop grand nombre d'enfants, mais trop grand par rapport à quelque chose, c'est-à-dire par rapport aux capacités d'entretenir ses enfants. Et c'est effectivement une contradiction.
Et Mill va d'ailleurs être marqué par le malthusianisme de son père, puisqu'à 17 ans, il passe une nuit en prison pour avoir distribué des pamphlets en faveur de la légalisation de la contraception. Ce n'est pas encore son féminisme qui parle, Françoise Orazi.
Bien, justement, encore une fois, on peut se demander s'il ne faut pas plutôt prendre un contre-pied interprétatif lorsque le jeune Mill milite pour la contraception. Est-ce qu'il n'est pas en train de finalement dire à son père en creux que ça aurait été un moyen d'éviter autant d'enfants?
Et alors les amis de son père s'appellent David Ricardo, Jeremy Bentham ou encore David Hume. Et ce sont des figures tutélaires dont il apprendra plus tard à se détacher, Nathalie Sigaud.
Oui, il aura ce qu'il appelle une crise. Hein, je crois que c'est en 1824. Une sorte de burn-out où il se rend compte tout à coup que tous les principes qu'on lui a enseignés ne lui permettent pas d'arriver au bonheur. Donc il lui manque quelque chose. Et ce qu'on arrive à comprendre, ce qui passe aussi dans sa relation, dans ce qu'il décrit de sa relation avec son père, c'est que il manque les sentiments, en fait. Il manque les sentiments. Quand on voit la manière dont il décrit sa relation avec son père, par exemple, au début de son autobiographie, il transparaît une grande admiration pour son père, où il explique que son père était très patient, qu'il prend sur son temps alors qu'il est occupé à travailler, à étudier sur son histoire de l'Inde, des Indes, pardon.
Qui est le grand livre qu'il va publier, voilà, notamment pour faire vivre la famille.
Voilà, hein, c'est assez important, effectivement. Et puis c'est un livre dans lequel il s'investit énormément. Et pourtant, James Mill, le père, s'interrompt régulièrement pour répondre aux questions de son fils. Alors notamment lorsqu'il apprend le grec au début, il n'y a pas de dictionnaire qui soit disponible, donc il interrompt régulièrement son papa qui lui répond. Donc il y a une grande admiration et en même temps il explique à un moment que ce qui manquait dans ses relations avec son père, pour lui comme pour ses frères et sœurs, c'était la tendresse, le terme est utilisé.
Et après, alors à l'âge de 14 ans, John Stuart Mill va faire un voyage en France qui sera décisif pour lui, Françoise Orazi. Il rencontre notamment Jean-Baptiste Say et découvre en quelque sorte le libéralisme à la française.
Oui, alors c'est la première fois véritablement qu'il peut penser par ses propres ailes. C'est-à-dire que son père exerce un contrôle sur le moindre détail de son éducation. Et effectivement, son père prévoit, avec l'accord de Bentham, que son fils, John, se rende chez le frère de Bentham. pour y être reçu. Le fait s'arrêter à Paris, y rencontrer des figures tutélaires de la gauche française, et à ce moment-là, Mel, sans son père, peut commencer à lire les livres qu'il veut lire lui-même et parler des sujets qu'il veut aborder lui-même. Mais c'est aussi un séjour qui a pour effet de sortir Mel de ses livres. Les Bentham qui le reçoivent font tout pour qu'il fasse autre chose, pour qu'il sorte, il l'emmène au cirque. Et grâce au fils de son hôte, il découvre la botanique, qui restera pour lui une grande, grande passion. Et on aurait probablement célébré Mel, non seulement en tant que philosophe et économiste, mais aussi en tant que grand botaniste. Son herbier et les notes qu'il avait prises ne s'étaient pas perdues après sa mort.
Et alors il écrira plus tard que dès cette époque, il voulait travailler à réformer le monde et que l'idée qu'il se faisait de son propre bonheur se confondait entièrement avec cet objet. C'est à ce moment-là qu'il va fonder la Société Utilitaire avec quelques amis, Françoise Orasi.
Oui, alors il traverse toute une période où finalement il crée des clubs, il fonde des clubs de conversation. Ce sont à l'époque des sociétés de débat, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, dans le debating societies en anglais. C'est la mode, hein, c'est la tendance. Et donc lui, un peu un jeune adolescent qui copie ses aînés en créant des sociétés exigeantes où il est question d'échanger des idées, mais notamment des idées politiques en ce sens.
Et à 18 ans, il obtient grâce à son père un travail à la Compagnie des Indes, travail assez modeste dans un premier temps, mais qui va ensuite évoluer. Il fera une carrière à la Compagnie des Indes, Françoise Orasi.
Alors oui, c'est pas forcément là aussi hein, l'autobiographie qu'il faut bien considérer comme un document qui sert autant à dire qu'à cacher. Et surtout à contrôler la postérité, ce n'est pas évident que c'est la carrière qu'aurait préféré Mel. On comprend en creux qu'il finit par s'y résoudre. Lui-même étudie le droit. Quand on s'est demandé ce qu'il pourrait bien faire de ses 10 doigts, on s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas faire médecine parce qu'il était trop gauche. Donc il semblait que le journalisme, comme son père l'avait déjà éprouvé, ne permettait pas de gagner sa vie dignement. Donc on pensait en faire un homme de loi. Et sans qu'on sache trop pourquoi, un jour, son père décide que finalement, il ne fera pas d'études de droit, alors qu'il les a commencées, qu'il les aime beaucoup, mais qu'il rentrera à la Compagnie des Indes. Alors certes, il a un poste de gratte-papier, mais il est déjà responsable des relations avec les États princiers, c'est-à-dire les États qui sont placés sous une tutelle, disons, indirecte de la couronne. Et il apprend, et on lui laisse une certaine latitude, une certaine confiance, au fur et à mesure qu'on se rend compte que ses comptes rendus et que ses écrits sont de bonne facture, et ainsi il peut proposer assez vite des conseils, des solutions dont on tient compte.
Et peu à peu, sa pensée se forme, se consolide. Ses principes d'économie politique qui connaissent un succès retentissant au moment de leur publication en 1848 font état chez Mill d'un libéralisme que l'on peut qualifier de classique, Nathalie Sigaud.
Les principes vont vraiment avoir beaucoup de succès. Hein. Ce sera une sorte de manuel de base en Angleterre jusque à la toute fin du 19e siècle. Hein. Ensuite, ce sera remplacé par les principes de Marshall. Alors, dans ces principes, la spécificité, disons, c'est que Mill essaye de développer la théorie économique en relation avec des aspects de philosophie sociale. Et pour cela, il se situe dans les pas, en quelque sorte, d'Adam Smith, hein, qui avait relié l'économie, la théorie et puis la philosophie. Et on retrouve exactement la même volonté chez Mill.
Et il va notamment prolonger la théorie des avantages comparés de David Ricardo.
On considère qu'il va la prolonger puisqu'il la modifie également. Hein. Il la modifie et il la modifie dans un sens qui va être celui qu'on va retenir de cette théorie des avantages comparatifs. Dans la théorie des avantages comparatifs, vous avez deux questions qui se posent. D'un côté, comment les pays se spécialisent? Qu'est-ce qui fait qu'un pays se spécialise dans le vin ou dans la toile, hein, pour reprendre des exemples de Ricardo. Et la deuxième question, c'est celle des prix. À quel prix chaque bien dans lequel le pays se sera spécialisé va être vendu? Ce que fait Mill, c'est qu'il reprend à peu près de manière identique ce qu'avait dit Ricardo sur le premier point. Donc les pays se spécialisent en fonction de leur avantage comparatif, c'est-à-dire, bon, pour Ricardo, c'était en fonction de la productivité du travail, hein, pour chaque bien considéré. Mill va prendre en compte aussi les coûts, hein, pas seulement la productivité, donc l'efficacité, hein, mais également les coûts de salariaux. Et là où il prolonge, où il modifie en prolongeant et donc il marque la théorie de son empreinte, c'est sur le deuxième point, c'est-à-dire le prix, les prix. Alors que pour Ricardo, les prix auxquels les biens allaient s'échanger sont des prix, disons, naturels, c'est-à-dire ce sont des prix qui dépendent des conditions de production plus le profit. Pour Mill, les prix vont être la conséquence de l'offre et de la demande. Mill est en quelque sorte une sorte de passeur entre la théorie classique et la théorie marginaliste qui va suivre par la suite en mettant l'accent sur la demande. La demande compte.
Hein. Et alors dans le chapitre 1 de son ouvrage intitulé « L'utilitarisme », Mill parle de la qualité des plaisirs qu'on commençait à évoquer tout à l'heure. Écoutons-en un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Il faut bien reconnaître que, pour les auteurs utilitaristes en général, si les plaisirs de l'esprit l'emportent sur ceux du corps, c'est surtout parce que les premiers sont plus stables, plus sûrs, moins coûteux, etc. Ce serait donc en raison de leurs avantages extrinsèques plutôt que de leur nature essentielle. Et pour tous ces avantages extrinsèques, les utilitaristes ont victorieusement plaidé leur cause. Mais ils auraient pu également prendre position sur le second terrain, qui est, on a le droit de le qualifier ainsi, le plus élevé, sans cesser d'être parfaitement en accord avec eux-mêmes. On peut, sans s'écarter le moins du monde du principe de l'utilité, reconnaître le fait que certaines espèces de plaisirs sont plus désirables et plus précieuses que d'autres. Alors que dans l'estimation de toutes les autres choses, on tient compte de la qualité aussi bien que de la quantité, il serait absurde d'admettre que dans l'estimation des plaisirs, on ne doit tenir compte que de la quantité.
La qualité des plaisirs, c'est une dimension essentielle de la pensée de Mill. Pardonnez-moi, Nathalie Sigaud.
Oui, c'est effectivement une dimension essentielle parce que c'est ce qui distingue la pensée de Mill de celle de Bentham. Et d'ailleurs, dans l'extrait, on l'entend bien, hein, il y a les utilitaristes classiques, sous-entendu Bentham, qui met en avant uniquement la quantité de plaisir, hein, peu importe la nature des plaisirs, ce qui compte, c'est un calcul de plaisir. Et personne n'a... Dans la pensée de Bentham, personne n'a à juger des types de plaisirs que préfère un individu. À l'inverse, pour Mill, effectivement, non seulement les plaisirs intellectuels, hein, en fait, sont des plaisirs plus, qui ont des conséquences positives, bien plus que les plaisirs bas, qui sont les plaisirs sensuels. Mmh. Mais en outre, ils sont plus désirables. Alors, plus désirables, ça signifie, chez Mill, qu'ils permettent de donner à l'individu plus de satisfaction. C'est-à-dire qu'ils permettent à l'individu de se distinguer de l'animal, en réalité. Hein, il y a dans l'utilitarisme, il y a une très belle citation où Mill explique que... il vaut mieux être un humain un peu insatisfait plutôt qu'un animal qui se satisfait de plaisirs grossiers, de plaisirs sensuels. C'est exactement ça, ça fait partie de l'utilitarisme millien.
Pour Mill, il faut fonder l'économie politique sur le postulat du désir de richesse, c'est très présent chez lui, et sur la concurrence. Nathalie Sigaud, ce sont vraiment deux notions essentielles.
Ce sont deux notions essentielles. En même temps, il ne faut pas faire de Mill un libéral à tout craint. Hein. Le libéralisme de Mill n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Hein. Je tiens vraiment à signaler ça, surtout en termes économiques. Donc, le désir de richesse, certes, c'est ce que l'on doit faire comme hypothèse pour travailler, pour étudier l'économie. On doit supposer que l'individu cherche la plus grande richesse. En même temps, il n'est pas désirable que les individus n'aient que cette idée en tête. Donc, lorsqu'il aborde la question, par exemple, de l'état stationnaire, c'est-à-dire ce qu'il adviendra dans l'économie plus tard, il envisage une nouvelle société, une société dans laquelle les individus cesseraient de, sans arrêt, essayer de chercher plus de richesses en se battant les uns et les autres. En d'autres termes, il faut distinguer chez Mill la concurrence, qui est saine, de la compétition, qui peut être malsaine.
Et alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nathalie Sigaud, il y a une période de dépression que va connaître Mill à l'âge de 20 ans, en 1826. Et c'est une période qui est importante à la fois dans sa vie et pour sa pensée, Françoise Orazi, notamment parce qu'il va s'en sortir grâce à la musique et à la poésie, et que cela va lui permettre, dans une certaine mesure, de continuer son émancipation vis-à-vis d'un certain nombre de proches de son père.
Oui, alors on n'a jamais eu la certitude de ce qui s'était effectivement passé. Ma collègue parlait tout à l'heure de burn-out. Moi, je préfère employer le terme de véritable dépression. Il ne dort plus, il perd la mémoire, il ne sait plus vraiment où il en est. Et le moment où, j'ai envie de dire, ça se décante, ou en tout cas ça explose, c'est assez connu. Il est en train de lire un roman où le personnage du père meurt. Et là, il éclate en sanglots. Et il pleure. Et il admet que, à partir de ce moment-là, il commence tout doucement à remonter la pente. Et voyant que les larmes lui ont fait du bien, il va aller chercher un peu du côté du sentiment et se mettre à lire notamment Wordsworth et Coleridge, qui sont deux romantiques anglais. Il aime chez Wordsworth son goût pour tout ce qui est bucolique. Il aime chez Coleridge le fait que Coleridge était un grand dépressif lui-même et a écrit des poèmes là-dessus. Et c'est grâce à cette poésie qu'il va découvrir presque une nouvelle dimension à la vie qui, dès lors, va l'éloigner irrémédiablement de l'utilitarisme un peu, je dirais, obsessionnel de son père et de Bentham.
Vous parlez de son rapport au père, Françoise Orasi, dans le chapitre 3 de son autobiographie s'intitule « Fin de mon éducation par mon père et commencement de mon éducation par moi-même ». C'est vraiment un point de départ pour John Stuart Mill.
Disons qu'à partir de là, de manière définitive, graduellement, il y a eu éloignement de ce père, qui voyait d'ailleurs d'un mauvais œil, qu'il choisisse lui-même ses propres amis. Mais en tout cas, après cette dépression, la rupture est définitive. Il se rend compte que pendant toute sa période dépressive, qui est quand même assez longue, qui dure un an et demi au bas mot, si c'est pas deux, et puis il aura quelques rechutes dans sa vie, mais il se rend compte qu'il ne peut absolument pas en parler avec son père. Et donc il se dit que dans ce système qu'on lui a transmis comme une vérité avérée, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et effectivement, dès lors, il va se tourner vers d'autres sources. D'autres sources de savoir, alors il y a le romantisme, ce qu'on appelle à l'époque l'idéologie allemande, tout ce qui vient de l'Allemagne. Et puis, effectivement, il y a même un rapprochement avec les unitariens, qui sont des religieux rationalistes, une sorte de secte protestante, et plus largement un intérêt pour l'art, qui n'avait pas été encouragé dans son enfance.
Et cette prise de distance s'illustre dans sa pensée. Je vous propose d'écouter un autre extrait de ses principes d'économie politique, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire. Que cette mêlée où on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les talons, et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. Au lieu d'être simplement une des phases désagréables du progrès industriel. Les États du Nord et du Centre de l'Amérique sont un spécimen de cette période de civilisation dans les circonstances les plus favorables. En effet, ces pays se trouvent dégagés en apparence de toutes les injustices, de toutes les inégalités sociales qui gênent la partie masculine de la race caucasienne, tandis que la proportion dans laquelle se trouve la population, les capitaux et la terre, assure l'abondance à tout homme valide qui ne s'en rend pas indigne par sa mauvaise conduite. Et cependant, bien qu'il y ait des signes d'une tendance meilleure, le résultat de tant d'avantages, c'est que la vie de tout un sexe est employée à courir après les dollars et la vie de l'autre à élever des chasseurs de dollars.
On entend ici, Nathalie Sigaud, que la pensée de Mill commence à s'émanciper.
Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une émancipation par rapport à l'utilitarisme. C'est une différence d'interprétation par rapport à l'état stationnaire, qui est l'état mis en avant par les classiques traditionnellement, par Ricardo par exemple, qui est la conséquence d'un certain nombre de lois, et cette conséquence d'un certain nombre de lois, qui sont des lois économiques, intangibles, et l'arrêt de la production, l'arrêt de l'augmentation de la production, l'arrêt de l'augmentation de la population, etc., etc. Alors que tous les classiques voient cet état comme quelque chose de manifestement très négatif, Mill va adopter un point de vue inverse en considérant que l'état stationnaire, c'est quelque chose de positif. Et c'est bien l'extrait là qu'on a entendu. C'est l'idée que les individus ne vont plus seulement chercher de la richesse. Il va y avoir un certain nombre de nouveaux principes dans cet état stationnaire. Plus d'égalité, plus de temps Parce que Mill parle de possibilité de partager le travail, donc plus de temps qui est alloué à chacun pour des loisirs, pour s'éduquer, pour l'art, pour etc., etc. Donc c'est un état qui est une sorte d'état idéal pour Mill.
Vous parlez de réinterprétation par Mill de l'utilitarisme, mais quelques années avant la publication des principes d'économie politique, donc en 1833, il avait publié une critique des travaux de Bentham et de son père, Nathalie Sigaud.
Oui, tout à fait. Alors, la critique est importante et elle nous montre les problèmes que Mill met en avant par rapport à ce qu'il a appris, hein, principalement de Bentham, parce que je pense que dans sa critique, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'éducation que lui a donné son père aussi. Et l'une des critiques principales, c'est une critique qui porte sur la nature humaine telle que la conçoit Bentham. On a parlé tout au début, hein, vous avez eu un petit extrait de Clairaut. Tout au début, il avait été mentionné le fait que le calcul était essentiel dans l'utilitarisme. Effectivement, c'est quelque chose pour Mill qui pose problème. Alors, qui pose problème tel que Bentham l'envisage. Pour Bentham, la nature humaine ne change pas. La nature humaine, elle est intangible, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est, au moyen de peine et de plaisir artificiel, c'est modifier le comportement des individus.
Alors que chez Mill, l'homme peut progresser, et sa nature peut évoluer.
Voilà, voilà. Hein, c'est vrai que c'est une différence fondamentale. Mill est, là encore, très optimiste. Il voit la capacité des individus à évoluer, il parle d'être en progrès. Donc l'individu, petit à petit, peut devenir altruiste. Tout dépend des institutions, tout dépend de son éducation, tout dépend de son caractère.
Ce que dit Mill, c'est que le comportement des individus est déterminé par la recherche de plaisir et la fuite de la douleur. Alors ce sont les bases de l'utilitarisme, mais c'est le cas seulement dans un premier temps. Et c'est peut-être là que sa pensée est novatrice, Nathalie Sigaud.
Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire que pour Mill, l'individu a, par exemple, en soi la possibilité d'être altruiste. Par contre, c'est la société qui va lui donner l'envie de l'être. Et je pense que cette distinction, elle est essentielle, hein, par rapport à Bentham. Pour Bentham, on est altruiste parce que ça nous donne du plaisir. Là, avec Mill, on a un altruisme qui est quelque chose, une potentialité dans l'individu et qui va se révéler dans la société, indépendamment du bonheur que ça procure, en fait.
On a parlé plusieurs fois, Françoise Orazi, de l'optimisme de John Stuart Mill et de cette idée selon laquelle le progrès est au cœur de sa réflexion. Mais il faut aussi replacer cette pensée dans son contexte et réexpliquer qu'à l'époque, la Grande-Bretagne est alors à l'apogée de sa puissance. C'est peut-être la plus grande nation industrielle au monde.
Sans aucun doute. Sans aucun doute, l'époque, on va dire 1850, le milieu du siècle symbolise le britannicisme triomphant, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, en plus de par son propre travail, où il contribue à diriger la colonie qui rapporte la plus profitable au monde, Mill est bien passé pour savoir que l'Angleterre vit des heures de gloire. En même temps, il restera toujours très critique par rapport à la culture britannique, et sa francophilie lui donne une espèce de d'autre point de vue par laquelle il peut jeter un regard un peu différent de celui de ses contemporains. Et puis, quant à son progrès, ce n'est pas un progrès béat. Hein, c'est pas un progressisme béat. Ils sont nombreux à son époque à être progressistes, à croire au lendemain qui chante et autres améliorations forcées. Et parmi ses contemporains, Mill reste finalement méfiant. Il dit que on peut s'améliorer, le monde peut aller mieux, la société peut aller vers du mieux, mais ce n'est pas garanti, il faut faire attention tout le temps. Et il y a toujours cette méfiance, c'est d'ailleurs là-dessus notamment, et aussi sur la question des femmes, qu'il va rompre avec Comte. Parce qu'il trouve sa vision de l'histoire trop mécanique, et ce mécanisme qu'il reproche à Comte, c'est le même qu'il reproche à Bentham.
Nathalie Sigaud, peut-être sur cette vision du progrès de Mill.
Je crois que Mill a aussi conscience du fait que la période est une période qui est traversée par des crises. Il y a des crises régulières, il y a de la pauvreté, ce qui fait que, certes, ce n'est pas un progrès béat, mais en même temps, c'est quelqu'un d'optimiste, ce qui fait que il essaye de résoudre, de trouver des solutions à la question sociale. Bon, et ça l'amène à décrire une sorte de société idéale.
On va reparler dans un instant, effectivement, de son intérêt pour les questions sociales. C'était le concerto pour piano en mi majeur de Francis-Édouard Bach, un contemporain de Mille, dont la musique l'aidera à guérir de sa mélancolie. Et nous sommes toujours avec Nathalie Sigaud et Françoise Orasi. Nous continuons à suivre les pas de John Stuart Mill. Alors en 1830, Mill va faire une rencontre qui va changer sa vie, celle de sa future femme, Harriet Taylor, mariée à un pharmacien de 20 ans de plus qu'elle. Et son influence sur l'œuvre de Mill sera déterminante, Françoise Orasi, au point que de nombreux éditeurs la citent comme co-auteur de ses ouvrages.
Oui, alors on est à la radio, donc vous ne me voyez pas sourire, mais c'est vrai que c'est la question de la place d'Harriet Taylor Mill, celle d'Harriet Taylor à l'époque, qui deviendra Mill plus tard, mais qu'on a coutume d'appeler Harriet Taylor Mill. Cette place constitue vraiment une des grandes polémiques de l'historiographie et des études biographiques sur Mill. Elle en dit d'ailleurs presque aussi long sur ce qui s'est véritablement passé que sur le regard sexiste que l'histoire porte sur la vie de Mill et puis plus généralement sur la philosophie.
La polémique se situe autour de la place réelle, de l'influence réelle que Harriet Taylor aurait eue sur l'œuvre de Mill.
Oui, parce que si vous lisez l'autobiographie qui est de toute façon discutable. Mais enfin, si l'on en croit l'autobiographie, c'est Harriet Taylor Mill qui a inspiré les plus grandes idées, les plus grands écrits de Mill. Elle participe évidemment à De la liberté. Elle est présente dans les œuvres principales de Mill, dans ses idées forces, et celles qui font, ces idées qui font l'originalité de Mill, qui font qu'il n'est pas qu'un héritier, mais qu'il devient un penseur singulier.
Elle va notamment lui ouvrir les yeux sur les inégalités que subissent les femmes dans l'Angleterre victorienne. Alors, quelle est la situation des femmes à ce moment-là, Françoise Orazi ?
Ah bien, en 1830, c'est franchement la catastrophe. Hein. Les femmes ont un statut légal qui les assimile à des enfants. Elles sont mineures tout au long de leur vie. Elles n'ont pas le droit à la propriété. Si elles se retrouvent détenir quelques propriétés grâce au testament de leur père, de toute façon, celle-ci est automatiquement transmise à leur mari lors du mariage. Ce qui fait d'ailleurs que les couvreurs de fortune plus d'une fois se marier et s'enfuir avec la caisse pour partir dans les nouvelles colonies aux États-Unis, aux États-Unis ou dans les nouvelles colonies comme le Canada, et que ça devient un véritable problème. Donc on met pour les grands bourgeois en place des contrats de mariage privés pour éviter que les hommes ne fassent main basse sur les fortunes de leurs épouses. Mais sinon, les femmes sont entièrement soumises à leur mari, et jusqu'en 1892, je parle de mémoire, en tout cas vers la fin du siècle, il est tout à fait tolérable et légal pour un homme d'enfermer sa femme contre son gré.
Ah oui. Alors, sous l'influence de sa femme, John Stuart Mill va publier L'assujettissement des femmes en 1869, ce qui contribuera à porter les revendications des femmes dans la vie publique britannique.
Il faut savoir que le 19e siècle va mettre en pratique la lutte des femmes, c'est-à-dire le féminisme comme mouvement collectif, voilà, et non plus comme geste individuel, comme on pouvait le trouver depuis Christine de Pizan.
Voilà, il y a le féminisme qui...
Donc le féminisme comme mouvement social.
Oui.
Donc je ne veux pas oublier tout ce contexte pour restituer la part de Stuart Mill, qui est donc un philosophe anglais, parce que ce livre sur la sujétion des femmes a une introduction extraordinaire où il dit qu'il faut mettre tout sur la table et dire, écoutez, vous dites qu'il y a inégalité et nous, on prétend que l'égalité est possible. Et c'est un petit peu ça qui se passe depuis la Révolution française, la mise en espace public de cette idée d'égalité. C'est plus seulement un livre théorique, ça devient une idée pratique qui doit être discutée dans l'espace public.
L'historienne de la pensée féministe Geneviève Fraisse, John Stuart Mill va contribuer à populariser certaines revendications féministes. Nathalie Zigo.
Oui, il aura un rôle très important et d'ailleurs un rôle contrasté et critiqué. Hein. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'influence de Harriet Taylor. J'ai en tête la manière dont un autre économiste, Hayek, présente cette influence en disant, en gros, tout ce qui est mauvais chez Mill vient de Harriet Taylor.
Évidemment.
Alors, voilà. Donc, il y a cette question... De l'égalité homme-femme. Alors, Mill va participer. Il y a énormément de correspondances entre Mill et des mouvements féministes. C'est, je crois, un féministe, vraiment, qui insiste sur la nécessité de donner le choix aux femmes. Alors, certes, c'est un choix un peu particulier. Elles ont le choix entre travailler ou se marier. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de cumuler visiblement, dans l'esprit de Mill, les deux. Mais en même temps, c'est un homme de son époque. Et si on regarde ce qu'écrit Mill en 69 avec ce qu'écrivent, par exemple, les libéraux français à la même époque, on est quand même à des années-lumière.
Et pourtant, il voit le mariage comme une institution économiquement inefficace.
Oui, alors, c'est une institution, disons, dans laquelle les individus étant dans un rapport de dépendance, cette institution ne peut pas fonctionner correctement. Comme toutes les institutions, c'est-à-dire qu'il analyse le mariage, c'est particulièrement vrai dans ses principes, comme toute autre institution, l'entreprise, par exemple, il pousse pas à bout le parallèle, mais en même temps, on a quand même cette idée que pour qu'une institution fonctionne correctement, il faut nécessairement que le contrat passé entre les membres de l'institution soit volontaire et soit fondé sur l'égalité. C'est ce qui permet de rapprocher, par exemple, la position de Mill sur les femmes, sur le contrat de mariage et la coopérative, enfin les coopératives, par exemple.
On entendait Geneviève Fraisse nous parler de l'émergence du féminisme comme mouvement social. Et en effet, la situation des femmes commence à évoluer en Angleterre à la fin des années 1860. Il y a notamment le fait que les femmes obtiennent le droit de vote aux élections locales. Et puis en 1870, la loi sur la propriété des femmes mariées est promulguée. Donc on voit vraiment des avancées qui interviennent, Françoise Orasi, à la fin des années 1860.
Oui, elles sont toutes progressives. Disons qu'à partir de 1860, on est véritablement au cœur de ce que les historiens appellent la première vague. C'est-à-dire que là, l'idéologie féminisme, comme le dit Fraisse, est sur la place publique, les discussions se multiplient, les revendications, les écrits, les magazines, subitement, ça fait partie du débat. Et Mail, à ce sujet-là, publie assez tard. Et dans ce qu'il dit, il ne dit rien qui n'a pas déjà été dit. Mais c'est Mail qui le dit. Et ça donne beaucoup, beaucoup plus de poids au discours féministe. C'est le meilleur soutien qu'il peut apporter. C'est de leur apporter sa caution philosophique. Et puis, évidemment, c'est Mail qui le dit. Donc, c'est dit magnifiquement. Et c'est dit de façon imparable. Par exemple, il passe longtemps de subjection que vous avez traduit par l'assujettissement, qu'on a aussi traduit par l'asservissement des femmes, qui est peut-être une traduction qui est plus marquante, mais il passe longtemps à montrer que tout ce qu'on dit sur les femmes, les discours que l'on entend en permanence sur les femmes, ils ont un défaut. Ils ne sont pas fondés parce qu'on n'a jamais étudié les femmes, on ne les a jamais regardées dans des conditions naturelles. Et il a cette comparaison en tant qu'amateur de botanique. C'est si vous faites pousser une plante dans une serre, vous ne pourrez en aucun cas savoir comment elle se comporterait dans un milieu naturel. Il faut, pour savoir ce qu'il en est des femmes, les laisser se développer librement, aussi librement que les hommes, et alors nous pourrons déduire si oui ou non les femmes sont capables de travailler, si oui ou non elles peuvent participer à l'économie, et dans ce cas-là, si elles le peuvent, c'est qu'elles le méritent. Et si elles ne peuvent pas, ce n'est pas la peine de légiférer. Elles ne le pourront pas. Rien ne sert de faire des lois pour les en empêcher.
On parle du féminisme de John Stuart Mill, mais en même temps, il semble défendre d'abord l'égalité entre les hommes et les femmes pour des raisons économiques, Françoise Orasi. C'est d'abord parce que si les femmes travaillaient, par exemple, ça permettrait d'accroître l'efficacité globale du travail, parce que ça créerait une émulation chez les hommes.
Non, je crois que c'est... Non, il s'agit... Pour moi, il s'agit véritablement d'une question philosophique. Il s'agit véritablement d'une égalité, d'une liberté. Je crois que ce que Harriet Taylor Mill lui a apporté, parce qu'effectivement, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être l'inspiratrice de sa pensée féministe. On a souvent voulu le croire, d'ailleurs, parce que ça a arrangé, en des temps plus anciens, tout le monde de penser que le féminisme serait une des mauvaises influences que Taylor aurait eues sur Mail. Mais en tout cas, il a vécu, grâce à sa rencontre avec elle, il a éprouvé pratiquement, je dirais, dans sa chair, la souffrance qui est celle d'une femme mariée qui n'a pas d'autre choix que de rester mariée, qui ne peut pas partir parce qu'elle n'est pas indépendante financièrement, elle n'est pas indépendante politiquement, elle n'est pas indépendante légalement. Et quand bien même son mari accepterait de la laisser partir et lui verserait, mettons, une pension, il resterait le seul à être le seul tuteur légal des enfants. Et donc toute femme mariée avec enfant ne peut pas partir sans perdre ses enfants.
Nathalie Sigaud, Mill voit tout de même les avantages économiques du travail des femmes, notamment à des postes élevés. Et son idée, c'est que la concurrence ne soit pas faussée et que les qualités intrinsèques des femmes, si elles sont supérieures à celles des hommes, puissent être mises en valeur et que les femmes obtiennent des postes plus élevés que les hommes si elles le valent, en quelque sorte.
Oui, c'est un élément de son argumentation. C'est pas le seul, hein. C'est vrai, mais il existe, c'est-à-dire que ce que nous dit Mill, c'est qu'on se prive, en empêchant la liberté des femmes, on se prive d'une main-d'œuvre, peut-être en termes plus positifs, d'un ensemble de capacités qui sont utiles pour la société. Il prend l'exemple des carrières médicales qui ne sont pas ouvertes à l'époque aux femmes, disant, bon, on manque d'offres de travail sur ce type de carrière. Si les femmes étaient autorisées à rentrer dans ces carrières, eh bien, il n'y aurait plus de problème. Et en plus, ça stimulerait effectivement les gens qui actuellement rentrent, hein, parce que la concurrence permettrait de faire émerger les meilleurs. Mais c'est un aspect de son argumentation. C'est vrai que il y a aussi l'idée que l'égalité est bonne en soi, c'est-à-dire vous avez dans le féminisme il y a deux arguments généralement, l'égalité comme un argument de principe, et puis l'égalité en relation avec l'efficience. Mill combine les deux.
Alors Mill s'intéresse aux droits des femmes et il étend cette réflexion aux ouvriers et aux esclaves. Il va d'ailleurs écrire un ouvrage sur la condition des ouvriers intitulé « Sur le socialisme », Françoise Orasi.
C'est la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on essaie ici de raisonner selon un spectre qui reste un peu français, si vous me le permettez. C'est-à-dire qu'on verrait à gauche forcément une économie qui tirerait vers le socialisme, le coopérativisme, l'étatisation. Mais il faut bien voir que Mill est très à gauche. Il est extrêmement à gauche. Il vient d'un milieu qui est radical. Et finalement, les seules personnes qui sont tout aussi à gauche que lui, et pour lesquelles il éprouve, lui et d'ailleurs son père et Bentham, beaucoup de respect, alors que n'importe qui est à droite de lui ne gagne que son mépris, ce sont les socialistes utopiques. Là où il y a des accords, c'est dans leur interprétation de l'économie. C'est-à-dire que, évidemment, le modèle de Ricardo, on considère que une économie étatisée, l'abolition de la propriété, etc., ça ne marcherait pas. Parce que les principes... Voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'on a considéré comme étant une mutation vers le socialisme ne me semble pas être aussi définitive, si ce n'est effectivement peut-être progressivement la réalisation que, finalement, on a beau s'enrichir, le pays a beau gagner de plus en plus... La répartition des richesses n'a pas lieu. Et alors, c'est là qu'il constate cette inégalité et que ça le pousse à s'interroger. Effectivement, Taylor s'interroge bien avant là-dessus que lui.
Il faut préciser qu'à la fin de sa vie, Mill se lance dans une carrière politique et devient député à la Chambre des communes de 1865 à 1868. Alors lui, il affirme qu'il accepte cette charge seulement à contre-cœur. Vous parleriez, vous, Nathalie Sigaud, d'une mutation vers le socialisme chez Mill ?
Je pense que les principes ces idées socialistes étaient déjà présentes dans sa pensée, mais sans doute pas révélées. Moi, j'analyserais plutôt sa position comme cela. Il a dans ses principes très tôt, par exemple, il parle des coopératives, il parle de l'héritage. Hein, il faut limiter la part que chacun va recevoir. Il critique la loi anglaise là-dessus. Il y a des éléments contre l'esclavage également très très tôt, qui sont pas seulement des arguments en termes d'efficacité, mais en termes de liberté, etc.
Donc il a... C'est-à-dire que l'esclavage est aboli en Angleterre dès 1833.
Oui, et il y a une lettre qu'il adresse à sa femme à ce moment, enfin Harriet Taylor, qui n'est pas encore sa femme, à ce moment-là, une lettre enthousiaste sur cette abolition, qui est vraiment le... Bon, voilà, on a réussi, il y a un combat de gagné, c'est vrai.
Donc cette sensibilité pour les questions sociales, pour vous, elle est présente dès le début de son œuvre.
Oui, elle est présente, et elle est présente à mon avis parce qu'il fait très vite une distinction dans ses principes d'économie politique entre les lois de distribution et les lois de répartition. C'est-à-dire qu'il considère que les lois de répartition, ce qui est, c'est un peu atypique hein, dans la théorie classique, les lois de répartition sont des lois qui sont les résultantes de choix humains. Et à partir de là, ça le conduit très naturellement à s'interroger sur ce qui serait le mieux en termes de liberté, en termes de progrès social, etc. Et donc je pense que c'était déjà en germe.
Et pour Mill, par exemple, les corporations sont le meilleur moyen de défendre les intérêts des ouvriers, notamment face à la réforme du système électoral de 1833 qui instaure un suffrage censitaire excluant. Il faudra ensuite attendre 1867 pour que la base électorale soit élargie à une partie des classes laborieuses en Angleterre, Nathalie Sigaud.
Oui. Et d'ailleurs, Mill participe au débat, puisqu'il est élu à l'époque, et il essaye de faire passer l'égalité, enfin le droit de vote des femmes à ce moment-là. Il échoue. Mais effectivement, c'est un argument qui est un argument pas seulement en termes de droit, mais encore une fois, l'idée c'est que si les ouvriers peuvent voter, ils vont prendre en main leur destin. Et donc c'est un argument en termes d'indépendance qui est central pour Mill dans sa conception de la nature humaine.
Là encore, il est influencé par Auguste Comte et les théories de Saint-Simon, Françoise Orasi, dans cette défense des ouvriers.
Oui, alors Moi, je pense que en 67, lorsque bon le débat parlementaire dure en fait assez longtemps, hein, commence dès 65, 66, 67, Mel n'est pas d'une part forcément pour un élargissement illimité du droit de vote. Hein, il considère au contraire qu'il est bon de le limiter. Et puis, il s'est déjà bien éloigné du saint-simonisme et du comtisme.
Pour quelle raison est-ce qu'il faut le limiter, selon lui?
Parce que Mel, il reste toujours, la grande angoisse de Mel, si vous voulez, c'est la tyrannie. C'est un libéral en ce sens que sa grande angoisse, c'est la tyrannie. Et depuis qu'il a lu Tocqueville, c'est-à-dire depuis maintenant assez longtemps, il sait que la tyrannie peut venir de la majorité.
Mmh, c'est l'idée de voir la volonté populaire comme despotique.
Voilà. Et la majorité est médiocre, statistiquement. Donc, finalement, la tyrannie de la majorité, c'est risquer de voir des hommes comme lui être soumis à des gens bien moins éclairés. Et c'est un argument récurrent chez Mel, hein, qu'il faut faire très attention. Il finit par conclure, à la fin de sa vie, qu'il serait pour un système de vote plural. C'est-à-dire, c'est un système qui a été mis au point assez techniquement par un dénommé Hare, et c'est un système qui vous accorderait un certain nombre de droits de vote en fonction de qui vous êtes. Donc finalement, ça revient à une espèce de bourgeoisie de l'électorat. Hein. Plus on est riche, plus on vote. C'était le cas à l'époque en Angleterre, en tout cas. Sauf que là, plus on est intelligent, plus on est diplômé, plus on vote.
Et vers la fin de sa vie, il va effectuer aussi ce virage en fondant notamment l'Association pour la réforme foncière qui remet en question les droits des propriétaires terriens. Donc là encore, Nathalie Sigaud, on constate peut-être cette évolution idéologique chez Mill que résume peut-être très bien la question ouvrière.
Je pense que la peur de la tyrannie, c'est quelque chose qui transparaît dans tout l'utilitarisme. Hein. Ça transparaît, c'est très très présent chez Bentham et ça a dû influencer Mill. Lorsqu'il parle de sa découverte de Bentham, il fait référence à ce genre de choses, hein, une tyrannie. Maintenant, la tyrannie, c'est aussi la possibilité que les nobles, l'aristocratie foncière, prennent des décisions et prennent des décisions qui s'imposeront à tous, contre l'intérêt de tous, mais au profit de l'intérêt de ses propriétaires. Donc, il y a une sorte de voie étroite ici pour Mill, hein, entre la tyrannie d'un petit groupe qui est effectivement ce qu'il observe, et puis la tyrannie possible d'un plus grand groupe. Et ça le conduit à des argumentations en termes de droit de la presse, en termes d'éducation pour améliorer la nature des ouvriers, etc., etc. Donc, il a une pensée assez cohérente.
Alors Mill meurt en tout cas le 8 mai 1873 à Avignon. Il sera enterré à côté de sa femme. On arrive à la toute fin de cette émission. Un mot de conclusion peut-être sur ce qu'il reste aujourd'hui de la pensée de John Stuart Mill. Très rapidement, Françoise Orazi.
Alors, je pense que clairement, on doit admettre que son influence reste énorme dans le monde anglo-saxon. Vous ne pouvez pas faire Sciences Po ou philo, voire même aller au lycée, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, sans entendre parler de Mill. Et aujourd'hui, les ouvrages qui restent mis en avant, ce sont les ouvrages philosophiques. Hein. C'est De la liberté, On Liberty. Et évidemment, ces écrits féministes qui lui ont redonné une forme de deuxième vie, on les avait cachés au début et maintenant, au XXIe siècle, on les célèbre.
Il faut plus retenir le Mill philosophe que le Mill économiste, selon vous, Nathalie Sigaud?
Sans doute, oui. Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que en économie, l'histoire de la pensée économique n'a peut-être pas autant de place qu'en philosophie, l'histoire de la philosophie peut en avoir. Et puis, d'autre part, parce que Mill, c'est, comme je vous le disais, un auteur de transition entre les classiques et les marginalistes. Or, les classiques, petit à petit, disparaissent de la pensée dominante. Donc, leur système est considéré comme non actuel, en quelque sorte. Il n'est plus vraiment étudié, sauf pour des raisons historiques.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'actualité du combat féministe de John Stuart Mill.
Mais oui, 150 ans après la sortie de son célèbre ouvrage de l'assujettissement des femmes, il était intéressant de revenir sur la pertinence et l'avancée des thèses défendues alors par Mill. Car non content de pourfendre l'asservissement des femmes, l'auteur anglais explique cette injustice par une volonté de la part des hommes de maintenir leur domination, en particulier sur le marché du travail. L'auteur nous interroge ainsi avec verve dans son ouvrage en nous disant disons, y a-t-il un si grand excès d'hommes propres aux hautes fonctions que la société soit en droit de rejeter les services d'une personne compétente? Sommes-nous si assurés d'avoir toujours un homme sous la main pour toutes les fonctions sociales importantes que nous n'ayons rien à perdre à frapper d'incapacité la moitié de l'espèce humaine? Un siècle et demi plus tard, les femmes ne sont plus écartées aussi directement du marché du travail, les mécanismes de domination et d'exclusion s'expriment par des pratiques et des méthodes bien plus insidieuses. Ainsi, en 2008, les femmes ne représentent que 7% des équipes dirigeantes des entreprises, et bien sûr, les écarts de salaire se perpétuent jusque dans la fonction publique qui enregistre un écart moyen de 18% entre hommes et femmes.
Des différences de traitement qui sont tout de même de plus en plus médiatisées.
Bien sûr, depuis 30 ans, les études et les politiques publiques se multiplient pour mettre un terme à cette injustice de traitement. Le gouvernement actuel a même fait de l'égalité femme-homme, la grande cause de son quinquennat. Pourtant, les chiffres de l'inégalité salariale ont stagné au cours des 15 dernières années. Après une impressionnante remontée de 1950 à l'aube des années 2000, le rattrapage moyen des salaires semble désormais à l'arrêt. Il faut dire qu'après une hausse mécanique provoquée par l'augmentation du nombre de femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que par l'élévation du niveau de scolarisation des filles, les évolutions sont désormais d'ordre politique. Il faudra désormais une politique volontariste d'augmentation des salaires féminins jusqu'à rattrapage parfait de leurs homologues masculins. Autant dire que c'est autrement plus difficile.
La situation pourrait cependant évoluer grâce à des études qui pointent explicitement le coût économique des discriminations entre les femmes et les hommes.
Oui, on a vu fleurir ces dernières années les études et les travaux visant à démontrer la nécessité économique de traiter également les femmes et les hommes. À gauche, comme chez les libéraux, on développe cet argument afin de convaincre les entreprises, agents économiques rationnels, de leur intérêt objectif à mettre en œuvre de telles mesures. Si ce type de discours peut sembler louable puisqu'il concourt à favoriser l'égalité entre hommes et femmes, il pose néanmoins problème sur plusieurs aspects. Tout d'abord parce que nombre de ces études s'appuient sur l'idée selon laquelle la présence de femmes dans l'entreprise aurait un effet bénéfique sur ses résultats. Cela équivaut pour l'économiste Hélène Périvier à une forme de perpétuation d'un sexisme bienveillant. Les femmes étant vues comme apportant des compétences ou qualités spécifiques, on n'est d'ailleurs plus très loin des intuitions et principes soi-disant innés dénoncés par Mill il y a un siècle et demi.
Mais c'est surtout le fait de justifier l'égalité de traitement par des logiques économiques qui pose problème.
Oui, pour reprendre les termes du sociologue Geoffroy de Laganerie, c'est la performance économique et sociale qui justifie l'inclusion des différences sexuées. En réalité, cela révèle une soumission des logiques d'émancipation à des impératifs de profit et de croissance. Une logique ancienne qui peut néanmoins s'avérer à double tranchant. Que se passerait-il le jour où une étude prouverait le rôle économiquement négatif des femmes dans l'entreprise ?
Harvey, merci beaucoup Nathalie Cigaud et Françoise Orasi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre livre, Françoise Orasi, L'individu libre, le libéralisme anglo-saxon de John Stuart Mill à nos jours, paru chez Classic Garnier. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Lyon qui ont permis ce duplex. N'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.